J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un article que j'avais écrit en septembre 39, c'est-à-dire au moment de la déclaration de guerre, et je parlais de Pig. Ben, je dois vous avouer, cet article m'a fait un peu rougir, tellement j'ai changé d'optique, tellement cet article était naïf. Je dois d'abord appeler votre attention sur ceci, je n'avais pas remarqué autrefois, à savoir que lorsque Pig a disparu en 1914, il était pratiquement inconnu. Dans la troisième partie des grands cimetières sur la Lune, Bernanos écrit ce qui suit, la plupart des Français ignoraient jusqu'à son nom de Peggy lorsqu'il est mort. Mais justement, cette mort glorieuse, qui est tombée au front le 5 septembre 1914, l'a immensément perdu. Et au lendemain de la guerre, chez Gallimard, on a fait une grande édition de luxe, très très belle, de Peggy, avec des préfaces retentissantes. Il y a une préface de Barrès, il y a une préface de Migrant, et on peut dire que dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920, si vous voulez, et 1939, que la gloire de Peggy s'est enfin installée. À ce moment-là, j'ai paru des livres comme Notre cher Peggy, des tarots, qui a eu un très grand succès, Le Peggy de Daniel Roth, un livre intitulé assez curieusement Sainteté de Peggy, par un nommé Cognan. Et alors, ce qui a été plus beau, c'était l'exploitation du nom et de la gloire de Peggy au moment de la Révolution nationale, c'est-à-dire du régime de Vichy. Dans les chantiers de jeunesse, Vichy, Peggy, c'était le grand homme des chantiers de jeunesse. Il y avait une publication de luxe, 1942, que j'ai conservée soigneusement, publiée par le ministère de l'Information de Vichy, c'est un nommé Marion qui dirigeait cela, et parmi les grands hommes que l'intelligence française s'honorait de compter, Peggy était au premier rang. Vous auriez pu remarquer, du reste, ça m'a beaucoup frappé, que Mauriac et que Bernanos étaient absents de cet ouvrage. 1942, parce que Mauriac et Bernanos ne pensaient pas exactement comme le maréchal Pétain, tandis qu'on absorbait, on annexait Peggy. C'est même passé quelque chose d'un peu plus curieux, c'est en 1941, donc pendant l'occupation, pendant le règne de Vichy, qu'on a sorti pour la première fois, dans la Pléiade, les œuvres complètes de Peggy. C'était un bon moment. Et puis, le fils aîné de Peggy, né en 98, je crois, qui s'appelle Marcel Peggy, a écrit un livre scandaleux. J'ai hésité, mais c'est bien un livre scandaleux, où il explique en 1942 qu'après tout, son père, Charles Peggy, était bien à l'origine du national-socialisme. Mais il s'est passé depuis la fin de la guerre quelque chose de très curieux, qui est le déclin, il faut le constater. Je l'ai constaté comme professeur, comme mes étudiants, comme quand j'ai interrogé sur leur lecture, le Peggy ne compte plus. J'ai fait une petite enquête pour savoir également s'il y avait des thèses en cours. On mesure l'actualité d'un écrivain au nombre des thèses qui sont déposées en Sorbonne, enfin sur les grands ouvriers. Il y a des tas de thèses, des quantités de thèses sur Claudel. Il y a pas mal de thèses sur Bernanos et il y en a à peine deux ou trois sur Peggy. Donc on parle de pèlerinage de Chartres. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein. Entre les deux guerres, il y avait eu ce mouvement catholique organisé dans les milieux intellectuels, surtout catholiques, mais il y avait aussi des employés et des ouvriers, et qui se rendaient chaque année à Chartres à pied, pas tout à fait les 132 kilomètres à pied que Louis Peggy avait fait aller-retour deux années suivantes, en 1912 et en 1913, mais enfin, commémorant ce pèlerinage qu'il avait fait lui-même pour aller à la cathédrale de Chartres, pour prier dans la cathédrale, il y avait chaque printemps cette marche, cette longue marche, enfin, de jeunes gens et de jeunes filles qui allaient à ça. Vers les années 1930, je ne me trompe pas en vous disant qu'il y avait plus de 25 000 participants. Ben, je me suis informé, et l'année dernière, il y en avait moins de 3 000. Vous voyez quelle chute, enfin, quel extraordinaire déclin. J'ai posé des questions pour savoir enfin, pourquoi il y avait ce déclin. Il y a une réponse qui est certaine. C'est à savoir que ce pèlerinage avait une certaine couleur politique, pas seulement une couleur religieuse. Ça m'a éclairé de lire le livre de Brasillat. Vous avez vu un Brasillat, Jésus partout, hein, qui a écrit Notre avant-guerre. La Brasillat raconte qu'avec ses camarades de Jésus partout, en 1937 et en 1938, il est allé faire le pèlerinage de Chartres parce que Peggy lui paraissait quelqu'un qui correspondait à sa propre pensée. Et il avait bien dit gentiment, Brasillat, sans prendre compte de ce qu'il écrivait, c'est entre deux voyages, un que j'avais fait chez Franco et l'autre que j'avais fait chez Hitler, que j'étais allé saluer à Chartres la gloire de Peggy. Et cependant, depuis un certain nombre d'années, l'œuvre de Peggy s'est beaucoup agrandie. Vous avez parlé à propos de Victor Hugo, de tout ce qui était sorti de sa tombe, vous avez dit en affilié des inédits en masse. Mais il a fallu attendre jusqu'en 1952 pour qu'on va sortir cinq volumes de plus de Peggy. Et puis c'était même pas fini, et en 1970, un monsieur Villard, Jacques Villard je crois, qui a fait une thèse sur Peggy, nous a apporté encore quelques autres inédits. Vraiment maintenant, c'est complet, c'est la fin. Ben, malgré tout ça, je vous ai indiqué que le prestige de Peggy est terriblement tombé. Et pourtant, il y avait des ouvrages qui avaient paru, des ouvrages qui n'étaient pas simplement hagiographiques, une biographie de saint, comme autrefois, des ouvrages sérieux, et le plus sérieux avait été celui de Romain Rolland, qui avait bien connu Peggy, en deux volumes, publié juste à la fin de la guerre en 1944. Il s'est injuste d'oublier l'ouvrage de M. Bernard Guyon, qui était là, je crois, à ce moment-là, doyen de la faculté des lettres de d'Aix-en-Provence, oui, c'est ça, et qui a fait un bon petit Peggy. Il y a un religieux, le révérend Père Pie Dupuy, qui a fait une énorme thèse sur la religion de Peggy. Il y a un historien que tous les écoliers français connaissaient de nom, qui s'appelait Isaac. Isaac et Malefay, c'était les mêmes les manuels français. Ben, Jules Isaac, qui avait été un camarade de Peggy, a publié, je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il y a 5 ou 6 ans, il est mort tous après, un beau livre sur les souvenirs sur Peggy. Ben, malgré tout ça, et malgré toutes les lettres nouvelles qui sont sorties, une correspondance nouvelle, je vous explique, parce que c'est une constatation que je fais sans m'en réjouir, que le nom de Peggy est considérablement tombé. Là, je voudrais me permettre d'ajouter dans une petite parenthèse, c'est pas pour me glorifier, c'est pour vous indiquer une chose. Une petite découverte que j'avais faite au moment où Robert Schumann, vous savez, l'ancien ministre, est mort. Robert Schumann avait une collection prodigieuse d'autographes, et quand il est mort et qu'on a vendu ses autographes, j'ai pu examiner cette collection. Et j'y ai fait là une trouvaille. Monsieur Robert Schumann possédait 5 textes de Peggy. Pas de problème, l'écriture de Peggy est parfaitement reconnaissable, c'était des textes de Peggy, mais c'était pas signé Peggy. Il avait signé Laubier, L-A-U-D-I-R, Laubier. Et c'est des textes qui avaient paru sous cette signature de Laubier dans la revue Blanche, en 1898 et 99, et la revue Blanche était une revue de gauche, je dirais presque d'extrême gauche, assez anarchiste même. Et là, c'était une révélation de savoir que sous le pseudonyme de Laubier, Peggy avait dit un certain nombre de choses du point de vue politique en particulier, et religieuse. La première chose que j'ai à vous dire, c'est l'extraordinaire contradiction de cet homme. Et je voudrais donner une preuve tout de suite. À quel point il est contradictoire. On dans la guerre, hein, lorsqu'il y avait d'un côté Vichy et l'autre côté la résistance. Ben, savez-vous que des deux côtés, on se réclamait de Peggy. Les gens de Vichy disaient, il nous appartient, écoutez, alors on apportait des beaux textes de lui. Et les gens de la résistance disaient, il nous appartient à nous, écoutez ces beaux textes de lui. Et c'est parfaitement vrai que les deux textes existaient, des textes antagonistes. Ainsi, les deux parties qui étaient si violemment en lutte se réclamaient du même homme. Ça tient à quoi? Et bien justement, assez contradictoire. En 1910, il avait donc à ce moment-là 37 ans, et il avait publié un texte qui s'appelle Notre Jeunesse. Il avait une véritable imprudence. Vous allez voir, dans ce texte, Peggy se permet d'écrire ceci. On peut commencer demain matin la publication de mes œuvres complètes. Il n'y a pas un mot que j'y changerai, si ce n'est peut-être 4 ou 5 mots, 7 ou 8 mots de théologie qui pourraient donner matière à des malentendus. 4 ou 5 mots, 6 ou 7 mots, théologie, malentendu, faut tout de même inouï. Parce que savez-vous que Peggy, au départ, jusqu'en 1905, s'affirmait comme anti-religieux et même athée. Moi qui suis athée, dit-il. Moi qui récuse complètement le christianisme et le catholicisme. Bon, et c'est le même Peggy qui va se présenter bientôt comme un catholique, même je dirais intégré, quelqu'un qui va foncer contre les modernistes, qui dit je suis un catholique romain, le plus fidèle des catholiques. Alors c'est même extraordinaire qu'il puisse dire j'ai rien à échanger sinon quelques mots qui pourraient faire des malentendus de théologie. L'aplomb ne suffit pas, vous savez, pour faire croire à l'auditoire qu'il fait nuit quand le soleil brille. Et bien, c'est ce que Peggy a essayé, sur le plan religieux. Maintenant, sur une autre chose, le militarisme. Le petit Peggy, le jeune Peggy, a été extraordinairement, très violemment, antimilitariste. En 1900, il voyait avec la plus grande sympathie un petit journal bien oublié aujourd'hui, mais bien curieux, qui s'appelait Jean-Pierre. Ce journal Jean-Pierre avait été fondé par Robert Debré, le père de M. Debré, qui a été un grand ministre français, et par la sœur de Marie-Saint. Et ce petit journal Jean-Pierre, c'était destiné aux enfants, aux petits-enfants, pour les empêcher de jouer avec des soldats de plomb, et aussi pour les délivrer d'influence ecclésiastique. Ce journal Jean-Pierre est un journal de gauche et d'extrême-gauche anti-religieux et anti-militariste. C'était lui qui est radis. Dans sa première Jeanne d'Arc, dans la deuxième, vous savez, 97 et 1910, dans la première Jeanne d'Arc, il y a une toute petite chose que je n'ai jamais vu souligner et que je vais vous raconter. Il met en scène, il dit, Gilles de Rais. Vous savez que c'est vrai que Gilles de Rais, l'abominable Gilles de Rais, le tueur d'enfants, avait été un des généraux, on dit à ce moment-là, des capitaines de l'armée de Jeanne d'Arc, si on peut dire. Et il va faire tenir un certain langage à Gilles de Rais devant Jeanne d'Arc. On parle de la manière dont il faut s'adresser aux soldats pour les lancer dans les assauts. Et je me suis aperçu que les paroles que Peggy met dans la bouche de Gilles de Rais sont littéralement, vous entendez, littéralement, les paroles officielles et historiques que Bonaparte avait prononcées en 1997 lorsqu'il avait dansé ses soldats sur l'Italie. Il leur avait dit à ce moment-là, il n'aura pas parlé, vous savez, ni de la patrie, ni de la défense nationale, il leur avait dit, vous avez devant vous cette riche Lombardie, vous avez des tas de pillages à faire, enfin, ça sera formidable. C'est ce langage-là qu'il faut parler aux hommes, disait Gilles de Rais. Et savez-vous ce qu'il lui répondait Jeanne d'Arc? Elle lui disait, un homme qui tient un pareil langage à ses soldats, je l'appelle moi le dernier des hommes. Voilà ce que disait Jeanne d'Arc, c'est-à-dire Peggy, contre qui? Pas contre Gilles de Rais, en fait, contre Bonaparte. Et bien, ce même Peggy, qui avait pris cette attitude tellement violente. Ce même Peggy qui, dans un texte de 1902, parlant des guerres coloniales, disait « Les guerres coloniales sont les plus lâches des guerres. Pourquoi ?» À cause de différents armements. Parce qu'en face de soi, puisqu'ils avaient eu des Français en Algérie, ils avaient eu des types qui avaient des pauvres fusils ou des sabres ou des lances, alors qu'eux disposaient de canons. Il appelait ça la lâcheté de la guerre. Eh bien, ce même Peggy, à partir de 1905-1908, va tellement évoluer qu'il va maintenant être un des glorificateurs de la loi de la gloire militaire. Il avait publié avec sympathie un texte d'Hervé, vous rappelez peut-être Gustave Hervé, c'est le type dont on l'accusait d'avoir dit qu'il fallait planter le drapeau dans le chenil, enfin, c'est d'ailleurs excessif. Gustave Hervé était un antimilitariste. Peggy, dans ses cahiers de la caserne, avait reproduit ce texte d'Hervé sur Wagram. Wagram, le carnage de Wagram. Et bien maintenant, Peggy, oubliant ce qu'il a publié, célèbre à son tour la gloire, l'admirable gloire de Wagram. Il a parlé de cette neige impériale, c'est une drôle d'idée, qu'il regarde chaque année sur le dôme des Invalides, comme si la neige sur les Invalides lui faisait penser à la campagne de Russie, et c'était une neige, si j'ose dire, napoléonienne. Ce pays qui avait si mal parlé de Bonaparte exalte maintenant Napoléon. Et il va aller très loin. Vous vous rappelez, guerre coloniale et puis l'âge des guerres. Et en 1911, il va célébrer grandieusement la conquête de la Mauritanie, que les troupes françaises sont en train d'effectuer, parce qu'il a là-bas son ami Sicari. Et il va, en 1911, oui, osez écrire ceci. La paix par le sabre, c'est la seule qui tienne, c'est la seule qui soit digne. Ça veut dire la paix imposée par la violence. Il s'en rend pas compte, et il dit en écrivant une phrase comme celle-là. Il s'interdit dorénavant de protester contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la Prusse. Si les Prussiens, si les Allemands ont pris à la France l'Alsace-Lorraine, c'est au moyen du sabre. Et maintenant, Peggy déclare comme ça, carrément, sans réfléchir à ce qu'il dit, que cette paix par le sabre, cette paix imposée par la force et par la violence, c'est la seule paix qui soit digne. Alors, vous oubliez que là aussi, hein, sur le plan religieux d'une part, sur le plan militaire d'autre part, renversement complet de cet homme qui affirme, moi je n'ai jamais eu de contradiction. Il y a pire, et que l'on ne sait pas assez. Peggy avait tenu un rôle réel, courageux, pendant la Fabricius. Non pas un premier rôle, comme il le dira plus tard. Puisque vous voulez voir la Fabricius, il était un tout jeune homme, il était encore un étudiant, nous sommes en 98, Peggy n'a encore rien publié, il n'est pas du tout connu. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est courageusement descendre dans la rue et se battre avec les bandes nationalistes. Bien. En 1910, pour justifier sa conduite de Dreyfusard, il va publier Notre Jeunesse, où il dit, mais j'ai rien à me reprocher, je suis Dreyfusard et je suis fier d'avoir été Dreyfusard. Mais très peu de temps avant sa mort, on ne sait pas bien la date, soit 1912, soit 1914, dans un texte qui s'appelle Clignon, et qui n'a été publié, posthume bien entendu. Peggy revient sur cette affaire Dreyfus et dit, alors, quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans la politique intérieure française, depuis les 10 dernières décennies, par exemple, parce que c'est quand la Fabricius y est compris, une décennie, si vous voulez, entre 1870 et 1912 ou 1914, c'est pas produit grand chose, hein. À peine quelques petits plis, dit-il, quelques tout petits remous, dont nous avons voulu faire des montagnes. Tiens, tiens, tout d'un coup, après nous avoir dit que la Fabricius est une affaire élue, une grande affaire mystique, voilà, c'est dit maintenant qu'il dit, oh, bah, après tout, mais non, c'était rien. Et il va également écrire dans un texte qui a déconcerté son ami Jules Isaac, devant lequel M. Isaac dit, je n'y comprends rien, je reste dans une espèce de stupeur, et il va dire, oui, du temps de l'affaire Dreyfus, j'étais un personnage de théâtre, je portais une espèce de masque. Et voilà trois choses que je viens de vous rappeler, l'une après l'autre. Son renversement du point de vue religieux, son renversement du point de vue militaire, son renversement même du point de vue de l'affaire Dreyfus, qui vous montre à quel point le personnage est difficile à approcher. J'ajoute que du point de vue politique pur, il avait été tout à fait d'extrême gauche en 1898-99, 1900 encore si vous voulez, et qui va pratiquement devenir un homme de droite. Si j'ai fait il y a un instant une allusion à cette petite découverte que j'avais fait quand j'ai trouvé les papiers signés Laubier, les papiers qui n'avaient pas signé son nom, ben ils avaient signé Laubier. Vous y voyez en 99 la déclaration que voici à propos de l'enseignement. L'enseignement, devrait être entièrement réservé à un monopole d'État et à un monopole laïque, et moi, Laubier, lisez, moi, Peggy, je demande que soit radicalement interdit l'enseignement des religieux, pas de congréganisme. Pourquoi? À cause de la liberté de l'enfant, on nous parle de la liberté de l'enseignement. Et la première liberté à respecter, c'est celle du gamin. Et si les jésuites ont le droit d'enseigner, ils violent la liberté de l'enfant, parce qu'ils le rendent difforme. Voilà ce qu'il écrivait en 99. Et vers 1902, Peggy va prendre une position radicalement opposée, qui lui est facile, puisqu'il n'a pas signé autrefois Peggy, mais qu'il a signé Laubier, et qui proteste maintenant contre la politique de Jaurès et contre la politique du père Combes, de M. Combes, vous savez, auquel il reproche injustement et illégitimement de vouloir faire une politique uniquement laïque et un enseignement purement laïque, ce qui n'était pas la pensée de Jaurès. À l'égard de Jaurès, il a été, vous le savez bien, une extraordinaire violence après l'avoir porté au nu en 1900. Il dira plus tard qu'il faudra le tuer, il dira carrément, il pousse un cri de mort contre lui, et objectivement, enfin si on prend les choses telles qu'elles sont, il est certain qu'au moment où Peggy va mourir en 1914, objectivement, il est du côté de l'extrême droite. J'ai retrouvé, j'ai publié il y a pas longtemps, une lettre d'un ami à lui qui aimait bien, qui s'appelait Pierre Marcel, de son vrai nom Pierre Marcel Lévy. Et en 1914, Pierre Marcel Lévy lui disait, écoute Peggy, sois raisonnable. Rends-toi compte de ce que tu fais. Moi, je te connais. Alors, je sais très bien que tu n'es pas royaliste. Que tu n'es pas avec M. Maurras et avec M. Daudet. Mais si je ne te connaissais pas personnellement, je serais obligé de dire, comme tout le monde, il a écrit ça, hein, Pierre Marcel, je serais obligé de dire, comme tout le monde, que tu fais la politique de l'Action française. Et bien, pour quelqu'un qui était parti de l'extrême gauche et qui, au moment de mourir, était favorable à la politique d'Action française, vous avouerez que là aussi, il y a une contradiction sérieuse. Hein. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire avec vous? Là, rapidement, je vais essayer de la voir, cette trajectoire de Peggy. Il est encore à écrire, vous savez, comme pour... J'avais dit ça, je crois, à propos de Chateaubriand. Vous dites, il est encore à écrire le livre sur Peggy. Il y a des amorces, il y a des indications, mais il faudrait faire, et je ne peux pas, parce que je suis vieux. Il faudrait faire un Peggy, pour dire la vérité. Première chose. C'est-à-dire que, même petit garçon, enfin tout de suite, Peggy a un sentiment très vif de sa supériorité. Et l'impression qu'il dominait absolument les camarades. Vous savez peut-être que sa mère, c'est une pauvre femme qui était rempailleuse de chaises, mais qui en même temps avait un petit capital puisqu'elle avait acheté des maisons. Sa mère avait désiré pour lui qu'il fût instituteur. On l'avait mis à l'école normale, c'était d'Orléans, pour se préparer une carrière d'instituteur. Et M. Maudit, qui était le directeur de cette école, avait repéré le petit Peggy en disant il a une intelligence exceptionnelle. Non, il ne faut pas l'orienter dans l'enseignement primaire. Il est très capable de faire de l'enseignement secondaire et peut-être même de l'enseignement supérieur. C'est vrai, M. Midi avait raison, il avait repéré là un gamin qui avait des dons particuliers. Ce petit Peggy s'est beaucoup gonflé de voir qu'il abandonnait ses petits camarades qui devaient devenir instituteur pour lui faire une belle carrière. C'est le pasteur Wegener qui m'a raconté, il a connu Peggy. Le pasteur Wegener m'a raconté que lorsque Peggy était au lycée d'Orléans, donc études secondaires, c'est lui qui s'était imposé comme chef de l'équipe sportive. Chef, hein. Il veut toujours être chef. Et quand il entre à l'école normale, il a beau être inconscient. Vous savez peut-être ce que c'est que ce mot-là. À l'école normale, il y avait un vocabulaire que j'ai connu, moi. Les gens de la première année s'appelaient les conscrits, les gens de la deuxième année s'appelaient les carrés, les gens de la troisième année s'appelaient les cubes. Eh bien, carré et cube maîtrisaient un peu les conscrits. À peine est-il entré à l'école normale. Il s'inscrit au Parti Socialiste, nous sommes dans les 95, et il s'intitule et il s'impose comme chef, lui qui n'est qu'un conscrit, comme chef du Parti Socialiste de l'école normale. Nous savons par un ami à lui, un ami ennemi, vous savez, il s'appelait Gustave Thierry, qui sera plus tard le directeur de l'œuvre. On lui avait donné un surnom à l'école normale, Peggy. On l'appelait Peggy le Corse. Le Corse, pourquoi? Parce qu'il est aussi impérieux que le jeune Bonaparte quand il s'est imposé à Paris. Alors, premier point, sentiment de sa supériorité, hein. Volonté de commander, d'être le chef. Deuxièmement, est-ce qu'on ne dit pas, c'est que je crois capital, Peggy a le sentiment surtout qu'il a des dons littéraires. Ce qu'il voudrait faire, c'est une grande carrière littéraire. Il a la poésie en lui, c'est vrai, c'est un poète, en effet, et il voudrait être reconnu comme poète. Et c'est un homme qui est, un jeune homme, un garçon même, qui est extraordinairement tendu vers la gloire. Il parlera plus tard de cette grande instruction temporelle dont je rêvais. Un autre point qu'il faut savoir sur le jeune Peggy, qui à ma connaissance on ne l'a jamais mis à son lumière, c'est que ce garçon s'estime écrivain. Il s'estime avant tout poète. Et c'est parfaitement vrai. Il avait de grands dons de poésie, on le verra assez. Et il est très tendu vers la gloire. Vous savez, ce qu'il désire, c'est une grande gloire littéraire. Il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle qui avait été sa convoitise. C'est un mot un peu majestueux. Ça veut dire quoi, inscription temporelle? Ben, ça veut dire que dans le concret, dans le présent, dans le temps, dans le monde tel qu'il est, je voudrais que mon nom à moi, mon nom Peggy, soit inscrit et qu'une inscription éclatante. Alors, dès qu'il est entré à l'école normale, il avait été reçu dans l'année 94, le voilà qui se met à écrire un poème, un récit poétique qui sera Jeanne d'Arc. Vous savez, quand on a travaillé comme normal en principe, quoi, c'est pour être professeur. Alors au bout de la première année, on passe sa licence, ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui le diplôme, le supérieur, puis après l'agrégation. Et bien, toute sa première année d'école normale, c'est lui va s'occuper d'autre chose que de sa préparation de professeur. Il est vrai qu'il a une année d'avance, car quand il est entré à l'école normale, il s'était déjà fait recevoir à sa licence, si bien que sa première année est pour ainsi dire libre. Et il travaille toute sa première année à Jeanne. Il veut avoir un congé, parce qu'à la fin de la première année, il n'a fait que rassembler les documents, il n'a pas encore écrit une seule ligne de sa agenda. Il demande un congé, c'est pas permis. À l'école normale, il ne peut pas avoir de congé. Et comme il semble, veut quand même avoir un congé, qu'il est débrouillard, il fait des semblants, qu'il a des difficultés aux yeux, il persuade le directeur de l'école normale de le laisser aller se reposer à Orléans pour ne pas user ses yeux, il retourne à Orléans dans une année qui n'est pas une année de congé, mais une année de maladie. Et à Orléans, 95-96, il va continuer, et bien avancer cette fois, sa jeune-là. Il va la terminer dans l'année 97, et c'est en 97 qu'il va se passer dans sa vie quelque chose sur quoi il faut que je vous apporte une lumière un peu crue. Voilà les gens. On est dans l'année 97, c'est-à-dire il avait 24 ans, et il va brusquement, et d'une manière assez courageuse, je dirais presque assez héroïque, d'après ce qu'on nous raconte, briser sa carrière universitaire. Il ne va pas se présenter à l'agrégation. Il dit non, je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose, je veux me livrer à de la propagande socialiste. À la vérité, voyons, qu'est-ce que c'est le fond des choses. Je vous le répète, quand on rentre à l'école normale, c'est en principe pour être professeur. Il y a toujours deux clans, j'ai constaté ça, moi, de mon temps, deux clans à l'école normale. Il y a les brassiques qui se disent, bon, ben, je vais être professeur, je prépare à être professeur. Il y a les autres qui considèrent l'école normale surtout comme un marchepied pour faire autre chose. Elle n'est intéressante, dira quelqu'un à l'école normale, qu'à condition qu'on en sorte. Ben, Teddy est de ce groupe des habiles, pas des malins, des odorats, des intelligents, qui se dit l'école normale c'est bien intéressant. Pendant 3 ans, j'ai été entretenu, il n'avait pas d'argent. Entretenu au frais de l'État, je suis logé, je suis nourri par l'État, mais pas question, hein, pas question, que j'aille ensuite m'enterrer dans un lycée de province. Ça commence comme ça, on était quand on est agrégé, pas moyen d'être nommé tout de suite à Paris, on est obligé d'aller ailleurs. Moi, j'ai commencé par Tours. La Peggy se dit, moi, Peggy, brillant comme je suis, avec le livre que je suis en train de préparer, ma Jeanne d'Arc, aller faire le pion à Romorantin, au Carpentras, en fait, j'ai dit, au pire, non, pas pour moi, hein, pas question. Je veux absolument rester à Paris. Parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut s'imposer. J'ajoute, qu'à ce moment-là, l'affaire Dreyfus allait s'éclater, ou quand il y avait des agitations extrêmement grandes, et que Peggy croyait, il me l'a dit, de la manière la plus limpide, dans un de ses inédits publiés en 53, j'étais dans la conviction, un peu laïque, dira-t-il, que la révolution sociale était imminente. J'avais donc deux raisons pour ne pas quitter Paris. Il est vrai que la première, il ne l'a dit pas, mais la deuxième, il me l'a dit. La deuxième raison, c'était de rester là au moment où il y aurait cette révolution parce que je voulais y participer. Mais sa raison profonde, égale à l'autre. Oh, j'ai dit bien qu'en effet, son socialisme était sincère. Mais également, il voulait se faire connaître littérairement. Et c'est pas encore corrigeant des copies à Carpentras qu'il arrivait à s'imposer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Au milieu de l'année 97, il va décider de quitter l'enseignement, de ne pas se présenter à l'agrégation et de se marier. Pourquoi se marier? Il veut se marier avec une fille qu'il connaît, Charlotte Baudouin, et qui pense exactement comme lui. Elle a plus de terre, son père est mort, c'est des enfants. Elle est mort depuis un certain nombre d'années, il avait quitté le communard, c'est très favorable à la commune, et les Baudouins avaient de l'argent. Et Charlotte Baudouin, qui pensait comme Charles Péguy, avait dit, ben, j'ai une dot de 40 000 francs, et cette dot, je te la donne, disait-elle à son fiancé, et tu en feras ce que tu voudras pour le travail que tu estimes bon. Alors Péguy lui avait dit, ben, on va utiliser cette dot, 40 000 francs, ça fait, je sais pas, moi, environ 120 000 francs chiffres, une compensée, si vous voulez, de valeur actuelle, en valeur d'achat, en pouvoir d'achat, hein. Et bien, avec ça, je vais fonder une librairie, il sera le directeur de librairie, il appellera sa librairie socialiste, elle le sera en effet, mais il a l'intention d'être en même temps son propre éditeur. Il joint donc ces deux tendances, sa tendance socialiste et sa tendance des littérateurs, en se disant, en étant moi-même un éditeur, ça y est, je vais pouvoir lancer mes bouquins. Mais l'affaire Dreyfus prend des proportions aussi violentes, et la litigiosité est telle que Péguy, qui vient de terminer sa Jeanne d'Arc, estime que c'est tout de même pas le moment d'apparaître comme littérateur, alors que les drames politiques et sociaux sont si vifs, il l'a fait imprimer une édition de luxe qui a coûté très cher et qui est très belle, c'est avec beaucoup de pages, avec beaucoup de blancs, une typographie admirable, mais il ne la lance pas sur le marché en se disant, on verra plus tard, lorsque la révolution sera accomplie. Et j'appelle votre attention sur un texte bien curieux, que l'on ne met jamais en vedette et qu'il faut mettre en vedette, et qui s'appelle La Cité Harmonieuse. Dans La Cité Harmonieuse, il décrit comment il la voit la cité socialiste. Et il y a un paragraphe assez extraordinaire, que j'appellerais aussi un petit peu naïf, mais regardez les yeux de l'homme qui est derrière vous, le Peggy de 24 ans, mais c'est lui qui écrit ça. Et il dit, dans la cité socialiste, il faut que l'artiste bénéficie de conditions particulières. L'artiste ne sera pas assujetti aux devoirs sociaux, au contraire, l'artiste sera, si on va dire le mot entretenu, c'est un mot épouvantable, mais l'artiste n'aura pas à soucier des questions matérielles, c'est l'État qui se traduit. Là, vous voyez la pensée de ce garçon. Il se dit, bon, c'est vrai, je suis un socialiste, mais en même temps, je suis un grand écrivain. Et je désire et j'espère que dans la cité socialiste que nous allons construire, un écrivain comme moi aura une position particulière et privilégiée. Ça ne marche pas, la librairie socialiste. C'est un effondrement. Peut-être parce que Peggy est imprudent, peut-être parce qu'il ne sait pas gérer les affaires financières. Toujours est-il que parti au, le 1er mai, une bonne date, hein, le 1er mai 98, parti avec un capital de 40 000 francs, une année après, il avait un déficit de 70 000 francs. Il est juste au bord de la faillite. Alors, un groupe de camarades, c'est grâce à le groupe des cinq camarades, dont R, H et de R, le bibliothécaire de l'école normale qu'il aimait beaucoup, Léon Blum, qui était socialiste et qui avait de l'argent, se constitue en petit comité pour dire on va sauver Peggy, on ne peut pas le laisser tomber dans une pareille faillite. Alors, on va lui redonner de l'argent, on va lui rendre un petit capital, ce qu'on fait qu'il paye, c'est les camarades qui payent, un capital de 25 000 francs, avec ce capital qu'il dit pourra repartir. Bon, il repart, mais il n'est plus le maître de l'édition, et ça le rend furieux. Et il ne veut pas être soumis à qui que ce soit. Alors, à la fin de l'année 99, il décide brusquement de lancer une revue qui sera à lui, qu'il appellera le cahier de la quinzaine, et dont il espère qu'elle fera son tremplin pour parvenir enfin à la gloire. C'est le moment aussi où il commence à se séparer du Parti Socialiste, où il va chercher la révolution n'ayant pas eu lieu, où il va chercher toutes sortes de, d'excuses, de sophismes même, pour accuser les socialistes d'avoir trahi l'esprit de Rusard. Je me demande en quoi. Et il va lancer ce malheureux cahier, il les lance avec un argent qu'il n'a pas, c'est-à-dire en partant sur les emprunts. La mère de Maritain, Madame Pape, lui donne de l'argent. Un camarade s'appelle Duchesne, un camarade de l'État normal, les côtés scientifiques, lui donne de l'argent. Attention, ce camarade lui donne de l'argent parce qu'il prend Peggy pour un anti-catholique. Duchesne était très anti-catholique. Et il y aura des drames plus tard lorsque les cahiers vont s'orienter du côté catholique, et Duchesne dira, mais j'ai pas donné les 15 000 francs pour ça. Toujours est-il que Peggy part avec ses cahiers en janvier 1900 en disant, c'est mon moyen de gloire. Eh bien, pas du tout. Ces cahiers vont tellement peu marcher, il lui fallait à peu près 1200 abonnés pour tourner, comme disait, c'est-à-dire pour ne pas être en déficit. Mais il n'en a jamais 1200 abonnés. La première année, il en a 600. Que ces pauvres cahiers, dont il avait espéré que ça serait son tremplin vers la gloire, sont en fait pour lui une espèce de glu, qu'un piège dans lequel il est pris. Pour avoir des abonnés, il a faim. Il a fait semblant de continuer à faire du socialisme, et ce n'est pas du socialisme qu'il fait. De plus en plus, il essaye de placer des textes de lui. Et il y a des gens qui se désabonnent en disant, mais on s'est abonné, bien sûr, en particulier, à une revue socialiste, et elle cesse de l'être. Alors Peggy est pris dans un véritable étau. Il n'a pas d'argent, la gloire ne lui vient pas. Il n'a pas les moyens de publier, parce que son nom est inconnu, et parce que dans ses cahiers, il n'ose pas mettre sa propre littérature, alors qu'il dit 10 fois, 20 fois ce qu'il pourrait faire, hein. Ce sont des drames, ce sont des poèmes, ce sont des dialogues, il ne le peut pas à cause de sa clientèle. Nous arrivons à l'année 1909, où il a donc 36 ans, 1909, et où au mois de juin, il pousse un véritable cri de détresse, vous savez, ça s'appelle « À mes amis, à mes abonnés »,« À nos amis, à nos abonnés », où il dit « Un homme comme moi, valant ce que je vaux, on ne me donne pas la possibilité de l'exprimer ». Cette année 1909, une clarté lui vient, un espoir lui vient, faisant une période militaire, il s'est trouvé à côté de Claude Casimir Perrier, le fils du président de la République. Et ce Claude Casimir Perrier est le mari provisoire d'une actrice qui s'appelle Simone. Cette actrice s'intéresse à la Jeanne d'Arc de Peggy, qui n'a pas connu de lancement, et lui dit, je voudrais peut-être monter ça au fait de Jeanne d'Arc à Orléans, on pourrait jouer votre pièce. Peggy dit, enfin, ça y est, non, on ne jouera pas la pièce. Et l'idée est entrée dans sa tête qu'il y a une possibilité pour lui d'action de republier cette Jeanne d'Arc en la travestissant. Autrefois, c'était du jardin socialiste. Maintenant, elle aura un autre aspect. Et dans l'année 1910, quand il lance sa Jeanne d'Arc, Peggy croit que c'est arrivé et qu'enfin, la gloire va l'unir. Hélas, vous verrez la prochaine fois les désillusions qui sont les siennes. La dernière fois, nous avons laissé Peggy en 1910, qui restera sa grande année parce qu'il a cru que ça y était, son entrée dans la gloire. J'ai dit qu'il allait relancer une nouvelle Jeanne d'Arc, un peu épouché, parce que la première était socialiste, et il s'agit plus maintenant de présenter une Jeanne d'Arc socialiste, et il voudrait se faire pousser, se faire soutenir, se faire lancer, parce qu'il y a de plus célèbre dans la critique française de l'époque. Ce qu'il y a de plus célèbre, vous savez, c'était, comme d'habitude, du reste, du côté de l'Académie française, c'est-à-dire les bien-pensants. Alors, ce même pays, qui, au moment de l'affaire Dreyfus, avait attaqué avec tant de violence un homme comme Barrès, allant même jusqu'à l'appeler Tartuffe, je ne sais pourquoi, et même Tartuffe moisi, voilà qu'il essaye de se faire présenter à Barès. Il a un ami qui est apparenté à Barès qui s'appelle Pélouin, et Pélouin organise un dîner, un déjeuner, ou je ne sais pas, où il y a Péguy qui se trouve en face de Barès. Et Barès regarde avec intérêt ce garçon qui vient d'extrême gauche et qui semble avoir fait une évolution satisfaisante. Alors Barès, qui dans l'écoute Paris écrivait l'article de tête, va faire un admirable article de tête, un véritable article de lancement, vous savez, c'était la catapulte, ça. Un article de tête pour dire aux Français, aux bons lecteurs de l'écho de Paris, enfin, tout ce qu'il y a de correct et de distingué en France, il y a un jeune poète qui vient de surgir et qui s'appelle Charles Pic. Faites attention, c'est le même moment, 1910 aussi, où Barès procède à un autre lancement. Lancement de quelqu'un qui deviendra infiniment plus célèbre, il s'appelle François Mauriac. C'est dans la même année, c'est au même printemps 1910 que Barès fait ses deux articles, l'un sur Péguy, l'autre sur Mauriac. Mais, il y a une différence absolue dans l'intention de Barès lorsqu'il parle d'une part de Péguy et d'autre part de Mauriac. Je dirais que le lancement qu'il prépare à François Mauriac est un lancement pur, vous allez voir, et l'autre est un lancement impur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand Barès a découvert les premiers poèmes de Mauriac, il a senti qu'il y avait là une authenticité littéraire. Et c'est un vrai poète. Alors je vais parler en tant qu'écrivain d'un écrivain que je crois un grand écrivain. Mais quand Barès parle de Péguy, ce n'est pas l'écrivain qui m'intéresse. Et il le dit clairement. Et même, nous savons par les tarots que Barès dit, oh, Péguy m'embête un peu, vous savez, quand il me presse dans ce jardin, je tire ma montre en attendant qu'il est fini. Donc sa Jeanne d'Arc n'enthousiasme pas beaucoup. Mais ce qui lui fait infiniment plaisir à Maurice Barès, c'est que Péguy était autrefois un dressisard. Alors il va dire dans son article, voilà un garçon qui s'est égaré, ou dans sa jeunesse, qui est allé du côté de la gauche et même de l'extrême gauche, mais comme tous les bons petits Français de France, il a gardé souvenir de son catéchisme et il est revenu maintenant à des bonnes idées. J'appelle ça un lancement impur, car il ne s'agit pas du tout d'un lancement littéraire, il s'agit d'un lancement politique. Un grand journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drumont, l'antisémite Drumont, va faire un article de tête également avec Banderol, c'est-à-dire avec grand chapeau, la Jeanne d'Arc d'un ancien Dreyfusard. Vous avez compris, ce qui intéresse ces gens-là, c'est que ce soit un ancien Dreyfusard, que ce soit un transfuge. Et on sait bien que les partis politiques aiment les transfuges depuis qu'on a vu le destin de M. Laval ou de M. Dordou. Il est accueilli comme tel, comme déserteur. De ce que j'ai à vous dire maintenant est sympathique. Péguy est bien content d'être lancé. Mais en même temps, il a en lui une certaine gêne. Il se rend parfaitement compte que c'est un lancement politique et que c'est un lancement de transfuge. Et ça, ça lui déplaît. Alors, en plein milieu, cette année 1910 où il était parti pour la gloire, en plein milieu, au mois de juillet 1910, il va écrire un texte qui s'appelle « Notre jeunesse ». Où il va dire, on parle de moi comme d'un ancien Dreyfusard, mais je suis Dreyfusard. Mes chers amis de droite maintenant, les nationalistes, puisque je suis avec eux, c'est vrai, je suis militariste et nationaliste, je suis très content d'être avec eux sur ce plan-là, mais il y a deux choses qui n'obtiendront jamais de moi, c'est que je ne renierai jamais l'affaire Dreyfus et que je ne renierai jamais la République. Et bien ça l'a plus, parce qu'on avait espéré avoir en lui une espèce de chiplétif, si vous voulez. Et tout à coup, il prend la position d'un indépendant. Et comme il dit, pas d'un petit indépendant qui défende. Un indépendant. J'ai mes idées et je les garde. Alors, ça ne va plus. C'est plus de jeu, hein. On lui avait promis, Barès lui avait promis de le pousser du côté de l'Académie, de lui faire avoir le grand prix de l'Académie française, grand prix de littérature qu'il venait de créer. Il ne l'aura pas, son grand prix. Il va s'organiser autour de Péguy, à partir de cette date, de la fin de l'année 1910, une vraie, le mot est juste, une vraie conspiration du silence. Maintenant que son nom s'est un peu répandu à cause de sa Jeanne d'Arc, il dit, je peux y aller, je peux publier ces poèmes que j'ai dans la tête depuis si longtemps. Et il va entasser les œuvres, si vous voulez, peut-être les chefs-d'œuvre. Il va publier son deuxième mystère, son troisième mystère, il va publier les tapisseries de Sainte-Geneviève, les tapisseries de Chape. Il va aussi écrire Ève, son immense poème d'Ève. Tout ça, chaque fois, tombe dans un trou. J'ai fait les vérifications, j'ai regardé pour voir ce que la presse disait. Il avait quelques amis qui faisaient des petits papiers dans la presse, mais la grande presse et les grands journaux, mais les grandes revues ne parlaient pas de lui, parce qu'il avait déçu, parce qu'on avait compté sur lui pour un certain travail politique et qu'il ne voulait pas faire ce travail politique. Alors, de son côté, vous voyez une agitation infernale, le pauvre garçon passe son temps dans les antichambres, monte des escaliers, tire des sonnettes, essaye d'accrocher à sa tentative de gloire les gens les plus contradictoires. On le voit du côté des catholiques et des anticatholiques, on le voit qu'il fréquente Cocteau, oui, il fréquente Cocteau. En même temps que Colette, il est dans tous les milieux, il se répand en vain. Il court, ce qui est fou, plusieurs lièvres à la fois. Il essaye d'avoir à la fois le Sémina ou le Goncourt. Il rate naturellement tous les deux, comme il avait aussi raté son grand prix de littérature. On le voit qu'il a supplié à un moment Bergson. Il a supplié Bergson de l'aider en lui disant cette phrase. dont il ne mesure pas le ridicule, et comme il y avait l'immense différence qu'il y avait entre la modeste gloire, ou plutôt l'existence de Peggy, et la grande gloire de Bertrand, il lui dit, vous manquez à mon jeu, comme je manque au vôtre. Si vous aviez été présent dans mon jeu, je n'aurais pas été bloqué pour le prix de l'Académie. Et si j'avais été présent dans le vôtre, les dévots ne fussent point parvenus à voir seul état au début de l'année 1214, il était question de mettre les œuvres de Bertrand à l'index. Je voudrais vous lire une lettre, enfin, un bout de phrase terrible. L'ami de Peggy, c'était Louis Gillet qu'il avait connu à l'école normale. Il avait d'abord bien aimé Gillet, puis en plus, maintenant, Gillet disait quel drôle de garçon Peggy. Et le 8 juillet 1914, écrivant à Romain Rolland, Gillet écrit ceci, « Ce malade de Peggy est capable de tout. Il est dévoré d'orgueil, d'amertume, vit à la folie, s'amasse en lui une immense poche de ville. » Le mot est dur, mais c'est vrai que si vous voyez ce que Peggy écrit à ce moment-là, ce sont des choses assez terribles, enfin assez pénibles. Il y a une telle amertume en lui qui déchire tout le monde. Ses anciens camarades de l'école normale, qui eux ont fait de belles carrières, carrière universitaire, ils leur en veulent. Il appelle ça maintenant le parti des intellectuels, le parti intellectuel. Or, ça ne vous dit rien, mais je vous assure que pour les lecteurs du 1910, ça veut dire quelque chose, le parti intellectuel. C'était le mot même qu'avaient employé Brunetière et les anti-Dreyfusards pour désigner les Dreyfusards. Veuve la Peggy qui prend le langage de la droite. Voilà Peggy qui se déchaîne contre un homme qui l'a réduit spontanément aimé, qui s'appelait Marc Saint-Nier, qui était le directeur du Sillon, qui avait le même âge que lui, ils étaient nés tous les deux en 1873. Mais il se trouvait que Marc Saint-Nier avait un prestige extraordinaire à cause de sa puissance oratoire, et les foules couraient à ses meetings, tandis que personne ne courait vers les cahiers de Peggy. Alors il a écrit contre Saint-Nier des choses abominables, si laide du reste qu'il n'a pas osé les publier, et qu'elles n'ont été publiées que posthume. Son camarade, Romain Rolland, qui l'avait aidé au départ, et bien, comme il voit que Romain Rolland réussit et que lui ne réussit pas, il dirige contre Romain Rolland un texte dont, pour la seconde fois, il n'osera pas le publier parce que c'est trop affreux, où il dit « Ce personnage, à la poitrine creuse, à la gorge tout sautante. » Mais enfin, voyons, Romain Rolland était un tuberculeux. Et son ose s'en prend à l'attitude physique d'un tuberculeux. Et quand il voit que Romain Rolland obtient ce grand prix de l'Académie française que lui n'a pas pu obtenir, il va déchaîner obliquement, Peggy va déchaîner obliquement contre lui, un petit jeune homme qui s'appelle René Johannet, et qui dans une revue va écrire un texte affreux, assez abominable, contre Romain Rolland, un texte où il fait passer Romain Rolland pour un fou Nietzsche, où il dit « Ainsi parlait Romain Rolland », comme vous savez bien Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathustra ». La poche de Bill. Écoutez bien ceci, Peggy est un malheureux. Quand on parle de Peggy, il faut avant tout savoir que c'est un homme qui n'a pas été heureux. Si je fais jamais un livre, un petit livre, je ne pourrais pas faire une histoire de Peggy, mais si je fais jamais un petit livre de quelques précisions sur Peggy, j'ai l'intention d'intituler comme ça, malheureux Peggy. On nous dit que son enfance a été douce, bon, son père était mort, il l'avait à peine connu quelques mois après sa naissance, mais il y avait autour de lui, paraît-il, deux femmes très tendres, sa grand-mère et sa mère. Et lui-même, dans un texte qu'il a abandonné, qui s'appelait « Commencement d'une vie bourgeoise », il avait parlé avec tendresse, sa mère et sa grand-mère, ça c'était fictif. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas osé publier son livre. Parce que en juillet 1900, dans un petit coin d'un cahier de la quinzaine de juillet 1900, il a employé un adjectif, un simple adjectif. Il est là, mais il est là terriblement. Ma malheureuse enfance, dit-il. Ben, je sais bien pourquoi, sa malheureuse enfance. Parce que dans un texte de 1913, il va avoir la phrase que voici. Un homme sous, est toujours un spectacle affligeant. Mais une femme saoule est un spectacle qui vous déchire le cœur et qui vous frappe à cette cicatrice où la douleur est intolérable. Comment cicatrice? Cicatrice? Ça veut dire qu'il avait eu une femme saoule, une femme qui lui tient à cœur. C'est-à-dire sa grand-mère. Malheureuse enfance, oui. D'autre part, sa mère elle-même. Sa mère lui en a voulu, moi j'allais dire à mort, terriblement, d'avoir en 1897 changé de carrière. Elle était tellement contente de penser que ce garçon, ça s'est fait finir. Donc elle avait pensé qu'il serait instituteur et qu'elle avait fait une si belle course qu'il allait devenir peut-être professeur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En 97, il abandonne son métier de professeur. Il va devenir une espèce de bohème parisien. Et puis qui est-ce qu'il épouse? Il épouse une fille qui est pas croyante, la fille d'un communard. Il a dit qu'il ne voulait pas se marier à l'église. Elle est tellement bouleversée, cette mère, que comme elle avait un tempérament plutôt brutal, elle va rompre avec son fils. Et c'est Jules Isaac, dans son livre publié il y a quelques années, vous a raconté une chose assez terrible dont il avait été personnellement témoin. Ça se passait rue du Fossé-Saint-Jacques, sur un trottoir de la rue du Fossé-Saint-Jacques, dans l'année 99. 99, c'est un gamin, il est marié, il est même père de famille, enfin il a un petit enfant. Et Jules Isaac a vu sur ce trottoir, Madame Peggy, la mère de Peggy, qui giflait deux fois son grand garçon. lui, naturellement, individu immobile, enfin quoi, c'est sa mère. Vous voyez ce qu'il a pu subir de ce côté-là. Jusqu'en 1914, jusqu'en 1910, sa mère refusera de voir les petits-enfants. Et en 1998, il avait écrit à un camarade voisin, je crois, « Ma mère continue à me rendre atrocement malheureux. » Il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe dans le foyer. Tout à l'heure, je vous avais raconté qu'il s'est, quand il s'est marié, il avait utilisé les 40 000 francs de la dot de sa femme pour lancer sa librairie. Que cette librairie s'était écroulée. Ensuite, il avait voulu lancer des cahiers, il avait fait des emprunts, et les Baudouin, la famille Baudouin, y compris son beau-frère, avaient ramassé, avaient réuni tout l'argent possible pour l'aider. Au point que Mme Baudouin avait vendu les petites terres, les petites propriétés qu'elle avait en Bourgogne. La Tichette est en train de s'engloutir. Alors vous pensez bien que les Baudouin n'étaient pas contents. Ce gendre qu'on avait cru plein de talent et plein d'avenir, ce gendre, c'était la plaie de la famille, quoi. Il avait tout perdu. Alors deux clans s'étaient constitués dans cette triste maison pays. Ces deux clans, bien difficile à comparer l'un de l'autre, puisque d'un côté il y en avait un, puis de l'autre il y avait tous. Il y avait un pays, et puis il y avait le clan Baudouin, c'est-à-dire sa mère, non, sa belle-mère, sa femme, le beau-frère, et au départ les enfants. Il est vrai que les enfants ensuite l'aimeront. Mais au départ, il s'était produit des choses tellement tristes que je vais vous en donner une preuve. Un visiteur qui nous a raconté ça, qui est venu nous voir payer dans sa petite maison près de Paris, à Palaiso. La maison était précédée d'un tout petit jardinet, où on poussait une porte de bois, où on s'avançait dans la porte d'entrée. Quand le visiteur était arrivé là, il y avait un gamin qui jouait, c'est Marcel. C'est toujours vivant aujourd'hui. Et Marcel, le visiteur lui tape sur la tête, sur l'épaule, vous savez, après ou sur les joues, comme on fait quand on voit un petit garçon et qu'on lui demande comment tu t'appelles, pour que le petit donne son prénom. Savez-vous ce que le petit Marcel avait répondu? Il avait répondu, je m'appelle Marcel Baudouin. C'était Marcel Peggy. C'est comme si le nom de Peggy était proscrit dans sa famille même. Alors il y avait le drame du côté de sa mère, il y avait le drame du côté de son foyer, puis il y avait le drame permanent des cahiers. Ces pauvres cahiers de la quinzaine, qui n'arrivaient pas à faire vivre. Ils vivaient d'expédients, ils vivaient à coup d'emprunt, ils avaient essayé de mettre en commandite, ça n'avait pas marché. Et puis il y avait sa gloire qui ne marchait absolument pas. Vous comprenez à quel point cet homme était malheureux. Alors, que je vous dise une phrase qu'il avait écrite, une espèce de phrase prophétique, qu'il avait écrite en 1900, oui, je crois, ou 1901, pendant un de ses premiers cahiers. Il s'agissait de ce thème visuel, surtout chez les prédicateurs catholiques, que la souffrance est purificatrice. La souffrance fait du bien à l'être humain. Et puis il dit, oh, ça c'est une vue de prêcheur. J'y crois pas, quant à moi. La souffrance endommage l'homme comme la morve endommage le cheval. Alors quand on pensera au Peggy malheureux, il faut penser que c'est un homme en effet très malheureux qui a été endommagé par la souffrance. Et ce n'est pas fini. Ce qui est passé dans sa vie intérieure entre 1906 et 1908, deux grands drames qui ont l'air contradictoires, vous allez voir. D'une part, Peggy va se convertir, d'autre part, il va rentrer dans une passion, dans un amour interdit. La conversion de Peggy, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas qui pourra l'étudier. Le révérend père Duployer a publié un très très gros livre intéressant qui s'appelle La religion de Peggy, mais ce livre n'est fait que d'une étude des pensées religieuses de Peggy d'après son œuvre. Mais le cheminement intérieur qui a amené ce Peggy athée à être un Peggy chrétien, ce cheminement intérieur, je ne le connais pas. Et je ne sais pas si on le connaîtra jamais. Toujours est-il qu'en 1907 d'abord, et en 1908 ensuite, très confidentiellement, et en demandant à l'un et à l'autre, à Maritain d'abord et à Joseph Flotte ensuite de se taire, de ne jamais révéler ce qu'il leur dit, il leur annonce, donc depuis mars 1907, je suis redevenu chrétien. Moi, ça pose pour nous un considérable problème, car s'il y a au moins une certitude, c'est celle-ci, Peggy n'a jamais été un catholique pratiquant. Il y a quelque chose d'un peu gênant et presque irritant dans le fait que Peggy va se proclamer en 1911, et publiquement et par écrit, un chrétien romain, super romain, même je vous l'ai dit, antimoderniste. Et ce chrétien si intransigeant ne va pas à l'église. Il ne va jamais à la messe, il n'approche jamais les sacrements, c'est pas quelqu'un qui s'est jamais confessé. Ah oui, une question ouverte. Je sais bien que Peggy a donné des explications. Je ne suis pas très sûr des explications. Il a dit, oui, moi je me suis converti, mais ma femme ne veut pas se convertir. Les enfants n'ont pas été baptisés. Alors, est-ce que je peux faire baptiser les enfants à la suite? Ma femme, elle ne le veut pas. Eh bien, si je ne pratique pas, c'est parce que je vis dans un état condamné. Étant donné que je ne suis pas marié à l'église, je suis donc à l'égard aux yeux de l'église en état de concubinage. Et comme je ne veux pas forcer la volonté de ma femme, comme je ne veux pas faire baptiser les enfants et que je ne veux pas faire régulariser mon mariage du point de vue de Rome, eh bien j'en suis réduit, moi chrétien, à vivre en dehors de l'église puisque je vis dans le péché, entre guillemets, étant donné que je ne suis pas marié à l'église. Je ne sais pas. Et alors l'église en insiste quelque chose que Massis me rapporte est une parole bien singulier, j'ai bien l'impression que c'est dit moi lui. Quand Massis ou Marie Saint, tu lui demandes pourquoi vous n'allez pas à la messe. Quand il dit parce que je réalise ce que c'est que la messe. La messe, vous savez, ça s'appelle le saint sacrifice de la messe. C'est une commémoration du sacrifice du Christ. Et je vois ça avec une telle intensité que je m'évanouirais. Enfin, je ne peux pas, ça me bouleverserait. Il y a une autre explication qui est peut-être plus intéressante celle-là et qui nous a été fournie en 1944 par Romain Rolland. Romain Rolland lui dit, ça s'est passé dans le cabinet de travail de Peggy, enfin pas le cabinet de travail, son bureau, le bureau des cahiers. C'était en février 1913. J'avais devant moi le grand Marolin et Peggy, il sortit des traits rouges. Quand il s'emportait, cet homme qui avait plutôt le teint jaune devenait plutôt rouge. Et il s'emportait ce jour-là. Il parlait avec une extraordinaire violence du malheur de sa vie, de son foyer qui ne marchait pas. Et il a dit à Romain Rolland, là je lui dis la vérité, hein, si je ne me marie pas à l'église, je pourrais y arriver, je pourrais obtenir peut-être une espèce de dispense, ça s'appelle en termes théologiques, sanatio in radice. Ça veut dire qu'on fait venir son mariage à l'insu même du conjoint qui ne le veut pas. Je ne sais pas le faire, je ne veux pas me marier à l'église parce que je veux pouvoir divorcer. Et une fois que j'aurai été marié religieusement, moi qui suis catholique, je préfère divorcer et me remarier. C'est à cause de ce divorce que je ne veux pas régulariser mes situations religieuses. Il l'a dit. Mais Peggy disait des choses souvent contradictoires. Alors je conclue en vous disant, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas de ceux qui mettent en doute la sincérité religieuse. Et je sais bien qu'on a mis en doute. Georges Sorel, par exemple, un drôle de bonhomme, qui a survécu à Peggy, disait, moi j'y crois pas à sa conversion. Et son ami Pierre Marcel, dont je vous ai parlé, Pierre Marcel est quelqu'un qui en 1926, dans le journal L'Œuvre, a dit, quant à moi, je ne me suis jamais aperçu qu'il était catholique, Peggy. Mais ce qui me fait croire à sa sincérité profonde, c'est ceci. Une lettre qu'il écrit pendant qu'il est combattant. Il va mourir sans doute pendant 15 jours, il va être tué. Il écrit à une femme, dont je vais vous parler maintenant, une femme qu'il aimait passionnément. Et cette femme était juive. Et dans cette lettre, qui n'est certes pas destinée à la publicité, qui est une lettre privée, secrète, il dit à cette fille, si je suis tué, je vous demande de réciter tous les jours ce qui suit. Et il lui écrit en gros caractère, en lettre d'imprimerie. Il lui écrit le Pater Noster et le Salve Regina. Ben, il ne triche pas avec cette fille, hein. S'il lui demande de réciter une prière tous les jours pour lui s'il meurt, c'est bien parce qu'il croit que c'est vrai. En tout cas, il y a aussi une autre chose que je sais, qui va très loin, vous allez mesurer, à propos de son christianisme. C'est qu'en tout cas, ça ne lui a pas apporté de bonheur. Puisque nous savons que depuis mars 1907, il se déclarait chrétien. Puisqu'à la fin 1908, il disait à son ami Joseph Stolt, en pleurant par exemple, je suis chrétien, il y a une lettre de vie. Du mois de novembre 1908, qui est une lettre terrifiante. Je la connaissais, je n'avais pas osé la publier. Et c'est mon camarade Bernard Guidon, le doyen d'Aix, dont je vous ai parlé, qui dans un bon petit livre, sur Peggy, un livre à la collection L'Homme et l'Œuvre, je crois, chez Athier, a révélé cette lettre. C'est une lettre qu'il écrit, Peggy, à son ami Péloin. Péloin, c'est un très vieux camarade, on ne peut pas dire qu'il fait de l'épargne devant lui, vous savez, il lui écrit comme il pense. Et cette lettre est si extraordinaire que Péloin a mis dans la marge, car j'ai lu la lettre, ce n'était pas de la littérature, c'était vrai. Qu'est-ce qu'il lui disait, Peggy, en novembre 1908? C'est Peggy converti, c'est Peggy qui, depuis un an, dit je suis chrétien. Il dit à Péloin, ne t'étonne pas, si tu vois un jour ou l'autre, dans les journaux, que nous nous sommes tous tués, ma femme, moi et les enfants, comme celui de Goebbels, hein, si tu vois dans les journaux, un jour, que nous sommes tous tués, ça ne t'étonnera pas, car le suicide est pour moi une tentation dont je me défends avec un succès sans cesse décroissant. Ce chrétien est donc au bord du suicide. Je voudrais qu'au moins, si vous gardez le moindre souvenir de l'exposé que je vous ai fait, cette image reste en vous. L'image d'un Peggy au bord même du suicide. Et je viens de faire allusion au deuxième drame de sa vie intérieure, qui se situe dans les mêmes années que la conversion, à savoir cette action qu'il a prise pour une femme. Nous savons depuis un certain nombre d'années, 42, 43, je crois, depuis un livre publié aux États-Unis, par la femme de Maritain, Raissa, un Maritain qui s'appelle Les Grandes Amitiés, nous connaissons ce nom propre. Mais il me semble que je ne suis pas autorisé encore à le prononcer, et nous en tiendrons au prénom. Blanche, elle s'appelait Blanche. C'était la sœur d'un camarade de Peggy, qui du reste avait collaboré au cahier. Elle était plus grande que lui. J'ai fait parler sur elle quelqu'un qui la connaissait bien, André Spier, le poète juif André Spier, qui m'a reçu quand il avait plus de 90 ans. Il était d'une lucidité absolue, et il m'a dit des tas de choses extraordinaires sur Peggy. C'est lui qui m'a dit oui, je la connaissais bien, Blanche. Elle était plus grande que Peggy. Elle était blonde crépue. Et Peggy était un peu trottinant à côté d'elle. Je crois qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. C'est aussi la vie de Simone, qui connaissait bien Peggy, il avait fait leur confidence. Et Simone, dans ses souvenirs, nous dit, moi j'ai l'impression que cette femme ne l'aimait pas, Peggy. certainement qu'elle ne répondait pas au faiblement à la ferveur qui lui jouait. Ce qu'on peut savoir, c'est que Madame Favre, la mère de Maritain, qui en 1938 nous a donné des souvenirs sur Peggy, à la phrase « Que voici, cet amour, enfin cette passion de Peggy, c'est un ouragan qui n'a pas cessé de le dévaster. » Je ne sais pas si vous connaissez les quatre hein, de Peggy. C'est probablement ce qu'il a fait de plus important. Et aujourd'hui encore, on n'en parle pas beaucoup. C'est en 1941, donc en pleine guerre, qu'on les a publiés en petit caractère, à la fin de l'édition des œuvres complètes politiques de Peggy dans la Pléiade, les textes qu'il avait écrits dans l'hiver 1911-1912. Et je ne connais pas, vous savez, je ne connais pas d'écrivain, qu'il se soit flagellé, qu'il soit insulté, plus terriblement que Peggy l'a fait dans ses quatre ans. C'est un homme qui est en face de lui-même, enfin, dans sa glace, si vous voulez, et tout seul, il réfléchit et il se dit des choses. Mais aussi, s'il dit, ô candidat, as-tu assez fait ton jeu? As-tu assez mené ta parade? As-tu assez baisé la croupe de turpitude, tant de fois délateur, ô renégat? Tant de fois failli, ô frauduleux? As-tu assez lâché ton groupe, ô déserteur? Plus loin, il s'appelle cœur souillé, cœur pourri, cœur de bazar, gorgé d'ambition, poche de ciel. Et je me rappelle avoir lu dans une lettre de Louis Gilet à Romain Rolland qui disait il est en train de s'amasser chez Peggy une poche de bile. Ben, Peggy ne savait pas qu'on disait ça de lui. Mais lui, quand il s'adressait à lui-même, tout seul, dans le secret de son cabinet, sa chambre, il s'appelait en effet poche de ciel. As-tu assez de haine dans ton carnet? Là, cet énorme poème sur lequel il avait voulu finir, en fait, sans savoir que sa fin s'appelle Ève, qui est monumentale, qui est très souvent ennuyeux, avec de très belles pages. Et là, dans Ève, il y a ceci, ces retournements qui reviennent tout même. L'homme, il aime à se payer de mots. L'être qui joue et qui ment quand il dit qu'il se donne. Hier, j'étais une fontaine, dit Peggy, et maintenant je suis quoi? C'est la base, un bourbier, un marais. La vie, faisait encore, toujours dans l'être, c'est une perpétuelle fuite, une constante flétrissure. On descend tout le temps. Dans les quelques lettres que nous avons lues à cette Madame Favre, si nommée il y a un instant, il y en a une, et c'est 2 ans avant sa mort, qui est saisissante, où il dit, quand je pense à ce que j'étais à 20 ans, socialiste de pied en cap, et tout pur. Ben, Dieu sait si vous aurez vu des choses sévères hein, sur Peggy. Mais maintenant, il faut que je vous montre, pour finir, parce que c'est la vérité, la grandeur de ce personnage. Où est-elle, la grandeur de Peggy? Elle est exactement ceci, que ce garçon, qui desséchait de réussir, qui avait le sentiment qu'on ne le reconnaissait pas, alors qu'il valait beaucoup, alors qu'il avait une sorte de génie, et c'est vrai, ce garçon, au milieu de sa vie, vers ses 35-36 ans, impatient de réussir, c'est un peu vendu. Il s'est approché des gens qu'il avait combattus, il s'est dirigé avec une sorte de sourire du côté de Barrel, du côté des anti-Dreyfusards d'autrefois, alors qu'il était un Dreyfusard, mais il était absolument incapable, physiologiquement, viscéralement incapable, de se vendre tout à fait. Alors vous savez, dans l'année 210, je vous l'ai dit, brusquement, au milieu de cette année 1910, où les nationalistes avaient essayé de le mettre sur leur voix, c'est lui qui leur a dit, minute, hein, stop, attention, je ne suis avec vous sur la défense de la patrie, mais il y a 2 choses que vous n'obtiendrez jamais de moi. Je ne renierai jamais la République et je ne renierai jamais ces effets dans la Dreyfus. Il se coulait à ce moment-là, Peggy. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se couler. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en 1906, au moment de sa grande tentation, il avait écrit cette phrase prophétique sur lui-même. Quand un pauvre homme a la probité dans la peau, il est perdu pour les grandeurs. Eh bien, c'est ça qui lui est arrivé à lui. Pensez donc qu'il va écrire en 1913 dans l'argent les mots que voici. Il y a un argent propre, un argent noble, c'est celui de la paye, celui du salaire. Et il y a un argent sale, un argent déshonorant, c'est celui des gens du monde. D'un garçon qui fait ça, il est en effet perdu pour l'Académie française. C'est un raté à la fin de la vie. Un homme qui se tourmentait, se déchirait à l'idée « je suis un raté, j'ai pas réussi ». Mais figurez-vous qu'au moment de la guerre, quand il a été immobilisé comme tout le monde, hein, quand il est parti sans figurer. Madame Favre nous raconte la dernière visite qu'il lui a faite, il était déjà dans son uniforme, le lieutenant. Et il partait avec une espèce d'enthousiasme, en disant, cette fois, je vais faire quelque chose de sérieux, cette fois pour de beau, c'est plus du barbouillage littéraire. Et puis cette guerre-là, le pauvre, ça sera la dernière des guerres. Il y allait, vous savez, plein d'une espèce de joie triste, profonde. Le Taconux, c'est un nom trop long, alors on l'appelait Taco, et cette fois le vieux Taco, c'est un camarade de pays, il était mobilisé comme lui. Et c'est Taco qui nous a raconté ceci. C'est le 3 août ou le 4 août, le jour où ils devaient partir ensemble avec leur régiment. Ils étaient allés, le train ne partait que vers 14h, et ils étaient allés manger dans un petit bistrot. Et là, il y avait toutes sortes de soldats qui mangeaient à côté d'eux. Et ça te dit, Peggy, à un moment, elle m'a poussé le coude. Tu m'as dit, tu les vois, mes gars, avec ça, on va refaire 93. Oui, il a bien dit 93. Un Peggy à la fin qui s'est reconquis, si vous voulez. Un Peggy, au moment de mourir, qui était redevenu pur.